Eh bien, je prends la parole pour le message maintenant. Je reste sur ce pupitre. Le frère du Pérou ont récupéré leur pupitre. Ils en avaient besoin pour une cérémonie de mariage qu'ils font aujourd'hui. Donc, voilà, que le Seigneur les bénisse. Seigneur notre Père, bénis encore ta parole, qu'elle pénètre dans nos cœurs, qu'elle nous instruise et nous édifie, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons dans l'Évangile principalement aujourd'hui, bien que nous ferons un petit crochet par l'Ancienne Alliance. Celui qui a, celui qui n'a pas. Une parole revient plusieurs fois dans les évangiles à laquelle nous ferions bien de prendre garde. Alors, nous allons aller... Je vais seulement, dans un premier temps, mentionner ces passages et puis nous les... lirons. N'hésitez pas à vous approcher, les sœurs, il y a de la place peut-être sur les bancs. Il y a un banc qui a des places libres, tout ça. Voilà. Donc, celui qui a, celui qui n'a pas. Alors, l'exégète Frédéric Godet appelle cette maxime l'une des lois les plus profondes de la vie humaine. Faisons bien de prendre garde à cette parole du Seigneur. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au total, elle apparaît 5 fois dans les évangiles, Marc 4, 25, Luc 8, 18, Matthieu 13, 12, dans le contexte des paraboles et Matthieu 25, 29 et Luc 19, 26, dans le contexte de deux paraboles, les talents et les mines, dans le contexte du jugement final. Alors, cette parole, en fait, me rappelle déjà la volonté de Dieu sous l'Ancienne Alliance de voir son peuple lui apporter des offrandes dans les périodes favorables consécutivement à sa bénédiction. Puisque dans le livre de l'Exode, au chapitre 23 et au verset 15, nous pouvons lire « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. » Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » C'est repris dans le livre du Deutéronome, lorsque les fêtes de l'Éternel sont instituées, chapitre 16, versets 16 et 17. Alors, je vais lire à partir du verset 13. « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. » Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point à vide devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Vous voyez qu'il y a là un contexte de bénédiction. L'Éternel bénira, te bénira dans toutes tes récoltes, tout le travail de tes mains. Tu pourras donc célébrer l'Éternel et tous ensemble, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes, tous ensemble pour célébrer, se réjouir devant l'Éternel de la bénédiction qu'il a apportée. Et cette bénédiction, eh bien, elle retourne à Dieu sous une forme d'offrande. Et le Seigneur donc désire les offrandes de son peuple, de la libéralité, un cœur joyeux pour donner, et pour cela, il a institué les fêtes aux saisons où il a pourvu. Il n'a pas institué les fêtes en hiver, parce qu'en hiver, il n'y a rien à récolter, il n'y a rien à donner, tout simplement. Nos dons sont toujours précédés de ses dons à lui. C'est déjà une règle qu'il faut avoir dans nos cœurs. Nous puisons dans ses dons pour lui apporter nos offrandes. Au plan matériel, comme au plan spirituel, opère le même principe. Le Seigneur nous donne. Pour le disciple, c'est là que ça se complique un peu. Ce principe s'applique d'abord au don des enseignements de Jésus. Le Seigneur nous avertit concernant la manière dont nous écoutons son enseignement. Il est venu sur la terre pour répandre une semence, la parole de Dieu, et il nous demande de la recevoir. Et dans tout ce que nous allons lire, nous verrons « Celui qui entend, entendra encore, et de mieux en mieux. Celui qui n'entend pas, n'entendra plus rien. » Je peux résumer ainsi. Donc c'est un avertissement solennel qui s'est traduit par l'enseignement de Jésus en parabole. Il y a un chapitre complet dans l'évangile selon Matthieu qui est consacré aux paraboles, alors que les autres évangiles les dispersent un petit peu. C'est le chapitre 13 et Jésus justement commence par la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole avec le semeur qui est sorti pour semer et qui a jeté sa semence dans le champ. Elle a atterri sur différents terrains le long du chemin, là où il y a des pierres, là où il y a des épines, et une partie dans la bonne terre. Et seule la partie dans la bonne terre a levé et porté tout son fruit. Alors, suite à cette parabole, les disciples s'approchèrent, chapitre 13, verset 10, et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. » Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Que leur manquait-il donc à ces Juifs instruits de la loi pour avoir et recevoir? Et vous voyez ce que le Seigneur leur offre en fait, au total, à la fin, c'est la guérison. C'est la guérison qu'ils sont en train de rejeter, de refuser. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait d'écouter à cette fin-là, à des fins de conversion et de guérison de leur cœur. Ils étaient imbus de leur connaissance, imbus d'eux-mêmes, et ils ne laissaient pas l'enseignement du Seigneur les sonder. À cause de leurs oreilles fermées, Jésus annonce qu'ils seront privés de toute compréhension concernant leur salut. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parce que les Juifs avaient, dans la loi, des réserves de connaissances pour aller vers Dieu, pour recevoir sa grâce. Les disciples, eux aussi, ne comprenaient pas tout de suite. On les trouve souvent dans l'incompréhension suite aux paroles de leur maître. Mais leur cœur voulait recevoir. Et Jésus leur donnait la compréhension du salut. Même s'ils devaient quelquefois se fâcher un peu à leur égard parce qu'ils étaient vraiment obtus, mais ils pouvaient aller quand même plus loin avec eux et leur donner la compréhension. Et justement, Jésus va plus loin avec ses disciples sur ce même principe, dans le même contexte des paraboles, dans les autres évangiles. Nous lisons dans Luc, au chapitre 8, versets 16 à 18. Il vient de aussi apporter la parabole de la semence avec son explication. Et voici ce qu'il dit. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, Jésus dit, attention, prenez garde. Vous avez commencé à écouter, ou vous voulez écouter, et donc la lampe du royaume, la lampe de la vérité, s'est allumée ou peut s'allumer pour vous. Mais si ce n'est pas pour que la lumière de la vérité, la lumière du royaume que j'annonce, brille chez vous, et devant quiconque est mis en contact avec votre foi, puisque celui qui entre verra la lumière. Non seulement elle vous éclairera vous-même, mais celui qui entre verra la lumière. D'ailleurs, celui qui entre pour voir la lumière, ça peut être aussi le Seigneur Jésus lui-même. Alors, si la lumière n'est pas là pour être mise sur le meuble, sur le chandelier, eh bien, vous êtes dans l'illusion. La lumière qui n'a pas vraiment été reçue pour tout éclairer s'éteindra. La parole reçue, également, doit être prêchée. Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 27, le Seigneur dit que ce qu'il le dit aux oreilles, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Dans un contexte de difficulté à justement porter le témoignage parce qu'il y a de la persécution autour. Donc il s'agit de bien s'approprier la parole de Jésus par le cœur, par la pensée, dans la conscience, pour bien la vivre soi-même et la retransmettre. Mais on peut se demander quand même pour quel motif nous mettrions la lampe sous le boisseau. Je crois tout simplement à cause de l'incompréhension et même de l'hostilité que rencontre la bonne nouvelle dans le cœur humain. Jésus a fait face à cette incompréhension, Jésus a fait face à cette hostilité, mais il s'est présenté comme la lumière qui éclaire tout homme, la lumière qui éclaire le monde. Et si nous, nous voulons être de ses disciples, alors nous sommes aussi de ceux qui vont éclairer le monde malgré la résistance au message de l'Évangile, malgré l'opposition, malgré l'incompréhension que cela peut susciter. Car l'Évangile est exigeant. L'Évangile demande une consécration de l'âme et du cœur et de la vie entière que beaucoup ne sont pas prêts à entendre et mettre en pratique. Et là, l'intelligence pour comprendre, ce n'est pas la capacité intellectuelle. L'intelligence pour comprendre, c'est un cœur bien disposé. Un cœur fermement orienté vers la vérité. Je vous dirais vraiment, laissez-vous pétrir par la vérité. Laissez votre cœur être gagné, enseigné, formé, travaillé par la vérité. Et quelles que soient vos qualités, dispositions, formations intellectuelles, ça n'a aucune importance. Il y a une autre image qui s'ajoute dans le passage parallèle de Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Là aussi, il vient de prêcher sur la parabole de la semence et il enchaînera sur la semence jetée en terre et qui grandit nuit et jour. Et puis encore le grain de sénevé après. Donc c'est bien le contexte toujours des paraboles. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ?» Alors le boisseau, en fait, c'est un petit vase qui sert de mesure pour le grain, en réalité. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc il y a cette nouvelle parole, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Que veut dire le Seigneur avec cette notion de mesure dans ce contexte? Je crois qu'après quelques recherches, le plus probable est, si tu puises dans mon enseignement avec une large mesure, tu seras considéré comme quelqu'un à qui on peut donner bien davantage. Et tu recevras effectivement bien plus. On entre dans la compréhension du message du salut en recevant déjà les premiers éléments de façon entière, sans réserve. Alors mon frère, ma sœur, ton témoignage personnel en rapport avec la parole reçue ne s'arrête pas à ce que tu vis et comprends aujourd'hui. Puise dans ce que tu connais de la grâce et de la vérité de Dieu et tu verras des développements insoupçonnés. Si tu as, on te donnera. Le même principe s'applique au don de la miséricorde. À propos de mesure qui nous est versée dans notre sein. Je vous lis ce passage qui est dans un contexte un peu différent, mais quand même qui rejoint chapitre 6, versets 37 et 38 de Luc. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Le don de la miséricorde, miséricorde morale, miséricorde pratique, puisqu'il s'agit de ne pas condamner, d'absoudre, mais aussi de donner. Le Seigneur dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 6 à 8, car mes pensées, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. L'extrême miséricorde du Seigneur qui permet aux méchants d'abandonner sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et d'être pardonné, rétabli, restauré dans la beauté du royaume de Dieu. Dans les Proverbes, au chapitre 11, nous avons cette parole toute simple. Le verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et alors, dans l'épître aux Corinthiens, la seconde, eh bien, il y a tout un développement à partir des dons qui ont été promis pour le secours des saints. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, les versets 5 à 12, où l'on voit là les interactions entre le matériel et le spirituel. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc j'ai fait cette, on peut dire, incursion dans ce domaine du don, de la libéralité, parce que il est, je pense, vraiment en rapport avec ce « on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Alors, il y a maintenant les deux paraboles qui disent le jugement final, c'est-à-dire la parabole des talents, la parabole des mines, dans l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, et qui se terminent toutes les deux par cette même sanction, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Cette citation est propre à Matthieu. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je vais quand même prendre, difficile de tout lire, mais dans Matthieu, c'est la parabole des talents. Alors il y a une nuance entre Matthieu et Luc, c'est que dans Matthieu, le Seigneur donne différents talents, 5, 10, 1. On peut dire une sorte de discrimination entre les personnes. Mais dans la parabole des mines, le Seigneur donne à tous la même chose, une mine, et avec cette mine, l'un fait vraiment valoir, les autres un peu moins, et le dernier, lui, ne fait rien valoir du tout. Donc dans Matthieu, je prends... Moi, je prends la parabole. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre où il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, ça c'est le jugement final, le rendu de l'ensemble de notre vie et service pour Dieu. Tu as été fidèle en peu de choses. Agissons pour Dieu dans le peu de capacité que nous avons. Peu importe ce que nous avons au départ. Si c'est peu, mais au service d'un maître que nous connaissons, que nous reconnaissons comme juste, bon, compatissant, généreux, cela sera un jour augmenté. Mais si nous défigurons notre Seigneur pour éviter de nous mettre à l'œuvre, nous serons jugés sévèrement. Car enfin, quelle opinion ce serviteur avait de son maître? Ne savons-nous pas que notre Seigneur est juste, qu'il est bon, qu'il est compatissant? Gardons cela dans nos cœurs, entretenons cette saine vision de notre Dieu et nous verrons alors comment le servir, comment nous mettre à l'œuvre avec lui et en recevoir le bénéfice dans le temps présent et dans l'éternité. Notre compréhension de Dieu intervient dès le départ. Cela nous mène à l'épître selon Jacques, au chapitre 1. À partir du verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans son activité d'aujourd'hui et dans la belle activité que le Seigneur lui donnera dans les cieux. Amen.